Rodica Negroyou, la diabolique de Nancy. Les services administratifs pensent qu'il s'agit là d'un mariage blanc. L'union avec un Français donne théoriquement droit à Rodica, à la nationalité française. Une première demande de naturalisation est faite, puis rejetée du fait que le couple ne vit pas sous le même toit. Rodica se montre insistante. Elle fait une seconde demande, également rejetée. Après cette seconde tentative, le couple vit sous le même toit, mais fait chambre à part. Selon les sœurs de Gérard et lui, cette situation inhabituelle s'explique par la peur que lui inspirait sa nouvelle femme. Chaque nuit, il s'enferme dans sa chambre. Il a même fait poser un verrou, car il soupçonne cette dernière d'essayer de le tuer dans son sommeil. Les sœurs ajoutent qu'en leur présence, Gérard présente un caractère fort lorsque Rodica est absente, mais dès qu'elle est là, c'est un autre homme. La pression qu'elle exerce sur lui est si forte que l'aide-soignante parvient à obtenir tout ce qu'elle veut. Après le mariage, Gérard aurait offert un appartement au fils aîné de Rodica. De plus, il aurait été contraint d'offrir à sa nouvelle femme un manteau de vison d'une valeur équivalente à 3 mois de sa pension de retraite, soit environ 14 500 francs. Ce même manteau, Rodica aurait déclaré l'avoir vendu après que Gérard le lui avait de nouveau réclamé. Leur mariage durera 3 ans. Accompagné par ses sœurs, Gérard se rend chez le notaire pour déposer une demande de divorce et annuler la donation au dernier vivant qu'il avait signé 3 jours après le mariage. Mais un peu plus tard, Gérard change d'avis. Il annule sa demande de divorce et signe une nouvelle donation au dernier vivant. Ses sœurs soupçonnent une nouvelle manipulation de Rodica. Sa nationalité française aurait été alors compromise. Gérard et lui meurent brutalement le 16 février 1988, dans de troublantes circonstances. Voici ce que Rodica Negroyou a raconté à la famille de Monsieur et lui. Ce soir-là, l'aide-soignante rentre de sa journée de travail. Comme d'habitude, elle retrouve son mari, avachi sur son canapé devant la télévision, selon elle. À côté de lui, il y a un verre d'alcool fort. Gérard et lui est effectivement réputé pour avoir des soucis avec l'alcool. Il est également soigné pour un problème de diabète, ce qui l'oblige à prendre des médicaments à vie. Rodica lui dit qu'elle va se coucher. Quelques heures plus tard, elle se réveille et constate que Gérard ne s'est toujours pas mis au lit. Elle retourne le voir dans le salon et le découvre inconscient sur le canapé. Il meurt dans la soirée. À l'époque, le médecin avait conclu un coma éthylique. Dans la famille, personne n'avait soupçonné Rodica d'en être responsable. Mais l'ouverture de l'enquête sur la mort de Raymond Jacquetel instaure de nouveaux doutes. Les enfants de Gérard déclarent aux enquêteurs que leur père, malgré ses antécédents médicaux, était en parfaite santé juste avant sa mort. Les enquêteurs finissent par s'apercevoir que le médecin appelé par Rodica n'était pas le médecin traitant habituel de Gérard. Il n'avait pas été informé de ses problèmes de santé. Également interrogé, le médecin généraliste habituel déclare que le décès brutal de Gérard est très surprenant. Sa maladie s'était stabilisée. À ce stade, elle n'aurait pas pu être la cause de sa mort. De plus, il s'avère également que le jour du décès de Gérard, Rodica venait de recevoir le précieux sésame qu'elle attendait. L'attestation qui officialise sa nationalité française, ainsi que son droit de toucher la pension de reversion en cas de décès de son époux. En 1992, les enquêteurs demandent l'exhumation du corps de Monsieur et lui. 4 ans après son décès, il reste malgré tout des éléments à analyser, notamment un peu de cheveux et un morceau de foie. C'est suffisant pour réaliser une expertise toxicologique. Le rapport du laboratoire de Strasbourg est rédigé en juin. Il révèle la présence à dose très anormale de digoxine. Pour le juge d'instruction, ce n'est plus du hasard. Il ordonne un placement en garde à vue à la PJ de Nancy. Lors de la perquisition à son domicile, les policiers saisissent de multiples objets de grande valeur. La plupart appartenaient aux deux hommes décédés. Interrogé, Rodica affirme que tout lui appartient, que tel vase ou tel objet d'art déco lui a été envoyé de Roumanie. Les policiers trouvent également un dictionnaire Vidal qui regroupe la liste des médicaments, leurs effets bénéfiques, comme leurs effets négatifs selon les doses. Dans les locaux de la police judiciaire, Rodica arbore une attitude tantôt provocante, tantôt menaçante. Elle traite les enquêteurs de voleurs et d'idiots. Après tout, une infirmière est là pour aider ses patients, pas pour les tuer. Son manque de collaboration et l'accumulation des preuves circonstancielles lui valent une mise en détention provisoire. Pour son avocat, Maître Baird, cette détention est non conforme. Il n'y a pas de preuve concrète de l'implication de sa cliente dans la mort des deux hommes. Il compte faire mener des contre-expertises. En attendant, de nouveaux éléments s'ajoutent au dossier qui compromettent la remise en liberté de Rodica, à commencer par son expertise psychiatrique réalisée par le docteur Francis Bockel. Selon les informations fournies, son discours est empreint de dénégation, avec le sentiment qu'elle a une revanche à prendre sur la vie. On la décrit comme une femme prête à tout pour s'en sortir. Cela inclut la capacité de donner la mort si elle peut en tirer un bénéfice matériel. Rodica considère les hommes comme des objets. Parallèlement à ce rapport, le juge reçoit une lettre en provenance de Tel Aviv. Elle est signée de la main d'Esther Goldstein, la sœur d'Hermann Goldstein, le premier mari de Rodica, en Roumanie. Dans sa lettre, elle repense aux circonstances troublantes du décès de son frère. Il n'avait aucun problème de santé apparent, pourtant, il est mort subitement d'une crise cardiaque à l'âge de 51 ans. Aucune autopsie n'avait été réalisée. Dix ans après, il serait impossible de détecter la moindre trace d'un empoisonnement à la digoxine. Cette suspicion n'est pas une preuve, et les premières analyses toxicologiques pourraient avoir été faussées. Alain Baird demande à l'Institut médico-légal d'effectuer une seconde analyse. Les résultats révèlent uniquement la présence du phénobarbital dans le corps de Jacquetel, mais sont négatifs concernant la présence de digoxine. Cette non-concordance des résultats constitue une faille majeure dans le dossier. Maître Baird dépose une demande de remise en liberté pour sa cliente, qu'il obtient moyennant une caution de 500 000 francs. Rodica Negroyou retrouve la liberté après 10 mois de détention provisoire. Dès lors, elle se lance dans un combat juridique pour se venger de ceux qu'elle considère comme ses persécuteurs. Elle dépose 24 plaintes, accusant les enquêteurs, le juge d'instruction et le procureur de xénophobie, de falsification de procès-verbaux. Un jour, elle dépasse les limites en se présentant au commissariat et en portant une grave accusation. Elle accuse le juge d'instruction d'avoir essayé de l'écraser volontairement. Plusieurs témoins affirment que la voiture est passée à côté d'elle et qu'elle s'est couchée par terre pour faire croire à une tentative d'homicide. Cette accusation calomnieuse lui donne droit à un second séjour en prison. Elle, qui devait comparaître libre devant la cour d'assises, se présentera aux côtés de policiers dans le box des accusés. Le procès débute le 21 juin 1999 à la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, à Nancy. Rodica et son avocat font face aux maîtres Joël Lagrange et Thierry Mosser, les avocats de la famille et lui. Le comportement de Rodica joue déjà en sa défaveur. Elle agresse, menace et insulte les témoins. Elle met à mal la défense de son avocat. Joël Lagrange et Thierry Mosser veulent en profiter pour lui tendre un piège. Rodica tombe dedans. Les avocats demandent à ce que les objets de Raymond Jacquetel soient apportés afin que l'aide-soignante confirme devant les jurés que ces objets lui appartiennent. Les avocats savent que ce n'est pas le cas, et l'accusé profère les mêmes mensonges que lors de la perquisition. L'avocat de la partie civile finit par glisser sa propre montre et demande à Rodica à qui elle appartient. Rodica dit que cette montre est à elle, le masque tombe. Plus tard, au cours de l'instruction, Rodica commet une nouvelle erreur, alors qu'elle aurait pu être disculpée. Les bons du trésor anonyme qui avaient disparu ont en réalité été retrouvés par Claude, le fils adoptif de Raymond Jacquetel. Il avait fini par les encaisser, ce qui démontrait que Rodica n'avait pas menti lorsqu'elle avait dit qu'elle ne les avait pas en sa possession. Mais elle ne peut s'empêcher d'exprimer sa colère. Elle accuse Claude de lui avoir volé ses bons du trésor, des bons qui pourtant ne lui appartenaient pas. À l'issue de ce procès, en juillet 1999, les membres du jury suivent les réquisitions de l'avocat général et condamnent Rodica Negroyou à 20 ans de réclusion criminelle. À cette époque, le pourvoi en appel n'existe pas. La peine est donc définitive. Quelques années plus tard, le tribunal de grande instance de Nancy annule le mariage de Rodica Negroyou et de Gérard Eluy et la déchoit de sa nationalité française. Au cours de sa détention, l'aide-soignante continue à s'offrir les services de son avocat. Maître Alain Baird dépose une demande de révision de peine en 2007 en démontrant que les experts ont oublié de prendre en considération la prise de Colchimax par Raymond Jacquetel, un médicament qui contient du phénobarbital. Sa demande est rejetée compte tenu des taux anormaux de barbiturique dans le sang. En novembre 2011, l'avocat de Rodica tente une seconde requête en révision sur la base de nouvelles découvertes scientifiques. Selon des experts, les patients souffrant de diabète et d'hypertension peuvent produire naturellement des substances identiques à la digoxine. Son argumentation est à nouveau rejetée. Rodica Negroyou sort de prison le 24 janvier 2015 à l'issue de sa peine. Elle aurait pu bénéficier d'une remise en liberté plus anticipée si elle ne s'était pas aussi mal comportée avec ses gardiens de prison. Aujourd'hui encore, elle est dans le déni. Pensez-vous que Rodica Negroyou dit la vérité? Est-il possible qu'elle se soit inspirée de Simone Weber? La première à avoir été surnommée la diabolique de Nancy a été condamnée en 1991 après avoir usé de la digoxine pour une question d'argent. Elle aussi a toujours clamé son innocence.